qui avait parlé de dysfonctionnement de la police et de la justice dans le suivi de Tony Meillon, le meurtrier présumé de Laetitia, et promis des sanctions. Ferrare, la conférence des premiers présidents de cour d'appel, a également exprimé sa vive préoccupation face à ces propos. Et puis bientôt une quatrième campagne de recherche pour retrouver l'épave de l'Airbus d'Air France qui s'était abîmée au large du Brésil en juin 2009. La catastrophe du vol Rio-Paris avait fait 228 morts. Les boîtes noires sont toujours introuvables. Les recherches en mer vont reprendre le 18 mars sur une zone de 10 000 km².
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Rendez-vous dans le Morbihan pour des enregistrements aujourd'hui à Hennebon à 18h30 et demain après-midi à la Roche-Bernard à 14h30. À très bientôt dans le Morbihan.
France Inter. La différence.
Et à 15h04 sur France Inter, je vous laisse en compagnie de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Je vous appelle suite au... Je réagis en fait par rapport au message de Sophie de Paris. Effectivement, moi je suis africaine, française d'origine africaine. Je suis très fière de ce pays qui m'a adoptée. Je lui suis vraiment reconnaissant, ce pays, mais seulement je me désole de voir dans quel état le pays, la France que j'aime, est. Alors, sincèrement, essayons de faire un effort, mobilisons tout le monde pour pouvoir aller voter et vraiment botter le cul à Sarkozy et compagnie. Voilà, parce qu'ils nous font honte. Ils nous font vraiment honte. J'ai la rage. Parce que par rapport aux pays africains, je ne peux plus rien dire. J'étais fière et je suis toujours fière. Mais je veux qu'on retrouve notre honneur. Nous, les Français. Allez, merci beaucoup. Au revoir.
Bonjour à tout le monde. Je vous appelle à propos de la petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine. En 1999 est morte la mère de mon amie. Elle était diabétique. Elle avait eu du Mediator pendant plusieurs années. Et elle est morte dans des complications cardiaques les deux dernières années de sa vie abominables. Voilà. Il faut la comptabiliser parmi les morts du Mediator. Merci. Au revoir.
Salut Daniel, c'est Laura de Montpellier. Moi je suis visiteuse médicale depuis plus de 20 ans, dans une spécialité par contre, pas en médecine générale, mais il faut arrêter de taper sur l'industrie pharmaceutique. Il y a des bons, il y a des méchants partout, c'est vrai. Mais il y a aussi des médecins qui font des fois des choses curieuses pour l'appât du gain. Qui a fait l'œuf, qui a fait la poule? Est-ce que c'est l'industrie pharmaceutique? Est-ce que c'est le médecin? Je pense que c'est la nature humaine. La nature humaine a des vilains côtés, Daniel. Des côtés de profit, des côtés de gens qui marcheront sur la tête de leur mère pour avancer. Et ça, on le retrouve partout, mais pas plus l'industrie pharmaceutique que les médecins. Et puis après, on est gouverné par des financiers. C'est ces gens-là qui sont en grande, grande partie responsables. Il ne faut pas se tromper de style. Voilà, Daniel, mais tes émissions sont super. Bye bye.
Bonjour Daniel, j'écoute votre émission aujourd'hui jeudi sur les laboratoires et toutes les petites turpitudes et grandes turpitudes qui s'y passent. Il y a certainement des laboratoires sérieux. Je voulais simplement vous dire que je suis diabétique. J'ai pris d'abord de l'isoméride qu'on m'a arrêté, puis ensuite j'ai été au Mediator qu'on a arrêté. Ensuite j'ai pris en insuline du Byetta, qui donne des effets secondaires très importants et qui est dans la liste sensible des médicaments. Et puis voilà maintenant que j'apprends le Stilnox, j'en prends un demi par nuit depuis très longtemps, n'est pas favorable non plus. Alors je trouve quand même que je suis vernie parce que bien que diabétique, parfois un petit peu sur le fil du rasoir, je trouve que malgré mes résultats qui ne sont pas toujours bons, eh bien j'ai de la veine par rapport à ceux qui sont malades et je leur souhaite bon courage. Vraiment, le fric, c'est quelque chose encore plus épouvantable quand ça touche les problèmes de santé, qu'on sacrifie des gens, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas faire dans ces milieux-là des omelettes sans casser des œufs. Merci beaucoup.
Bonjour Daniel et son équipe. Juste un petit commentaire à propos de l'émission sur l'industrie pharmaceutique. Il est impossible, il est incompatible dans un pays comme la France d'avoir deux objectifs qui sont contradictoires. Celui d'avoir pour l'industrie pharmaceutique l'objectif d'augmenter son chiffre d'affaires, ce que prétendent faire les dirigeants de cette industrie, et l'objectif de la sécurité sociale qui est de diminuer les coûts de santé des 65 millions de Français que nous sommes. Donc il n'y a qu'une possibilité pour rendre ces deux objectifs compatibles, c'est d'avoir une industrie publique de la pharmacie. Il faut voir en plus que notre industrie pharmaceutique, si elle se porte bien, si elle se porte bien en termes capitalistiques, puisque c'est une des industries les plus florissantes au monde, c'est parce qu'elle s'est assise depuis maintenant une cinquantaine d'années sur justement le matelas financier de la sécurité sociale qui a financé à la fois ses recherches et son développement. Merci Daniel et merci à l'équipe.
Beaucoup de messages sur le reportage d'hier, le sujet d'hier, sur les questions de conflit entre la recherche, les médecins et l'industrie pharmaceutique. Merci pour tous ces messages, chers AMG et AMGE. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui captive le monde, ce qui fascine le monde en ce moment, la révolution en Égypte, au Caire, en ce moment, à l'heure où nous parlons. Mais bien sûr qu'on va essayer de prendre du recul un peu, puisqu'on a parlé de contagion, hein, de cette maladie venue de Tunis qu'on appelle la révolution. Contagion aux pays voisins du Maghreb, contagion à d'autres pays arabes, contagion jusqu'au Yémen même. Donc on a voulu aujourd'hui éclairer un peu tout ça avec un spécialiste, mais aussi un journaliste, oui j'allais dire mais, parce qu'il y a tellement de spécialistes en ce moment qui sortent de tous les côtés sur ces sujets-là et qui nous ont tellement manqué auparavant qu'on peut sourire un peu. Notre journaliste s'appelle Richard Labévière et il est depuis longtemps un observateur attentif de tout cet univers, Moyen-Orient, Proche-Orient, et on a choisi de lui donner la parole et en lui demandant d'être le plus pédagogique possible pour que nous comprenions ce qui peut se produire et pourquoi les choses se sont produites. Mais auparavant, on va rester ici à Paris, au métro Couronne à Paris. Tous les jours, toute la journée, des Égyptiens qui vivent en France, qui vivent à Paris, se relaient pour manifester, pour écouter ce qui se passe au Caire, ce qui se passe en Égypte. Et voilà quelques échos de ces Égyptiens en exil qui vibrent et qui vivent ce qui se passe là-bas.
Mercredi soir, sur le terre-plein du boulevard de Belleville, à Paris, au métro Couronne, une réunion comme chaque soir, en solidarité avec la lutte du peuple égyptien.
Madame, ça va, vous pleurez ?
Oui. Oui, quand on voit les images aujourd'hui de Place Tahrir, on ne peut que pleurer pour la folie que ce président, on ne peut plus l'appeler président, pour la folie qu'il est en train de mener le pays. C'est un massacre qu'il est en train de faire. Il veut tuer les manifestants pacifistes. Il ne veut pas un changement. C'est un vrai dictature fou.
C'est en direct du Caire, là.
On entend quelque chose en direct du Caire.
Il est au téléphone en direct du Caire.
Allô, allô.
Non, il n'y a pas besoin du micro.
Il y a un masriyen kollohom fi Paris waqfin bismaou.
Ihna kollina waqfin fi Paris tahrir w ma hadish hayatharrak illa ma yamshi
al mujamada.
On est à la place et on ne bougera pas de la place.
Ils sont sur place à rire. Ils ne bougeront pas jusqu'à ce que Moubarak parte. Ils n'ont pas peur des provocateurs. Personne parmi nous ne va abandonner, même si nos enfants meurent.
Sama al-Masriyin.
La taragou ala l'islam.
انا بضرب من حضراتكم كلكم ان انتوا تتجمعوا وتبقوا ايد واحده وتقفوا قدام المتظاهرين وتقفوا قدام كل الناس النصابه الحمراء دي
بوجي با نو انا avec vous surtout vous bougez pas de la place restez là où vous êtes nous on est là mais on est avec vous que dieu soit avec vous que dieu vous garde
Voilà, nous voudrions une couverture médiatique parce que nous, nos frères et nos familles là-bas, elles sont massacrées au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté, la fraternité, au nom de tout ça. Hein, on appelle tous les Français, le peuple français, de nous soutenir, s'il vous plaît. Nous, maintenant, le peuple égyptien, on est désarmés. On est pacifiste, mais le régime utilise tous les moyens au monde pour nous massacrer. Alors, un coup de main pour nous, parce que la télévision égyptienne, elle montre rien du tout. Elle montre que le soutien pour Moubarak. Les gens qui soutiennent Moubarak, ils sont tous des policiers habillés en civil pour massacrer le peuple égyptien. Alors c'est vraiment, on appelle la conscience humaine, tous les hommes et femmes libres au monde, de nous sauver, sauver nos frères.
Agar, vous faites partie du comité de défense pour la lutte du peuple égyptien. Donc en fait, la répression des manifestants anti-Moubarak, qui a fait presque un millier de blessés et plus d'une dizaine de morts pour le moment, elle aurait été menée par le gouvernement.
Incontestablement, hein, il y a des cartes d'identité qui ont été relevées. Donc pour l'instant, oui, effectivement, ça va dans le sens de miliciens qui travaillent pour le ministère de l'Intérieur et pour quelques hommes d'affaires aussi qui auraient loué ces hommes de main.
Dans ses discours à la télé, Moubarak parle d'un départ dont on n'arrive pas à comprendre s'il est à la fin de son mandat ou si finalement il est proche, peut-être même dès demain, vendredi. Comment comprendre alors ce nombre de blessés, le fait qu'il y ait toutes ces provocations envers les manifestants anti-Moubarak, si Moubarak est décidé à partir?
Eh bien, je crois que justement parce que Moubarak est décidé à partir qu'il y a eu ces provocations. On ne peut pas lire ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé encore aujourd'hui sans prendre en considération que ce régime est en train d'être mis à bas et qu'à partir de là, il est en train de jouer ses dernières cartes. À savoir, ils peuvent négocier le départ de Moubarak, mais pas la fin du régime.
Donc pour vous, l'enjeu aujourd'hui, il est là. Il est que le départ de Moubarak, il est quasi certain. Maintenant, il va falloir se battre pour un changement de régime.
Absolument. Ce que je tiens à dire très clairement, c'est que les peuples qui se sont battus avec des conséquences très graves ne sont pas prêts à rentrer chez eux sous prétexte qu'un tel, que ce soit Ben Ali ou Moubarak, a quitté le pouvoir. Hein. Que ce soit pour la Tunisie ou que ce soit pour l'Égypte, l'enjeu est beaucoup plus grand. Il s'agit de renverser, de mettre à bas un régime. Un régime, bien sûr, il peut être incarné par une personne, en l'occurrence Ben Ali ou Moubarak, mais il est au-delà. C'est une structure, c'est des infrastructures, c'est des personnes, c'est tout un réseau d'hommes d'affaires, de politiciens, de miliciens. Et donc c'est tout cela qu'il faut mettre à bas. Et c'est pourquoi les camarades tunisiens se battent actuellement encore en Tunisie. Et le peuple égyptien qui est sorti dans la rue ne se satisfera pas d'un simple départ de Moubarak. Nous voulons que Moubarak soit jugé pour les 30 ans d'oppression qu'il a fait subir au peuple égyptien. Et par ailleurs, nous demandons la dissolution du Parlement, la tenue d'élections démocratiques, de telle sorte qu'on puisse enfin commencer à construire notre avenir dans nos pays.
Voilà, avec les Égyptiens qui tous les soirs se retrouvent au métro Couronne à Paris pour suivre ce qui se passe dans leur pays. On va retrouver donc Richard Labévière qui va faire un panorama de ce qui se passe actuellement au-delà de l'Égypte, les risques ou les révoltes possibles en Syrie, en Jordanie, au Yémen, dans le Maghreb, etc. C'est un point de vue, une analyse d'un observateur compétent, pointu depuis longtemps, mais c'est une analyse, on a pris ce parti-là. Il y en a beaucoup d'autres et qui sont très intéressantes et très passionnantes en ce moment. Je vous conseille un entretien avec Éric Rouleau dans l'Humanité d'aujourd'hui sur les frères musulmans. On le rencontrera la semaine prochaine, Éric Rouleau, avec Le Monde diplomatique, mais vous pouvez lire cet article sur les frères musulmans, puisqu'on dit les islamistes sont tapis derrière les manifestants. On a entendu cette phrase-là. Alors, qui sont ces frères musulmans? Quels risques? Quelle puissance? Quel pouvoir? Etc. C'est intéressant de se faire une idée un peu plus précise, puisque c'est tellement fantasmé. Dans un instant, donc, Richard Labévière, l'auteur d'un bouquin qui vient de sortir, Quand la Syrie s'éveillera. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, notre traditionnel repère lyonnais des amis de là-bas si j'y suis aura bien lieu ce vendredi 4 février à 20h30, comme d'habitude, au Cotopo, dans le premier arrondissement de Lyon. Le thème sera cette fois l'actualité tunisienne. Et Chérif Ferjani de l'Observatoire lyonnais sur la défense des libertés en Tunisie viendra nous en parler. Merci de venir nombreux pour apprendre, comprendre et échanger. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du Kotopo, c'est www.kotopo.free.fr. À vendredi.
Bonjour, c'est pour vous annoncer l'ouverture d'un nouveau café repère à Anduze, dans le Gard, au restaurant Le Triboulet, dans la rue Bouquerie. Nous commencerons cette série lundi 7 février à 19h30, soupe et tartines, à partir de 20h30, débat sur la coopération intercommunale, pardon, parce qu'on a des problèmes ici avec la 2C2A, c'est l'appellation locale. Donc, lundi 7 février, 20h30, au Triboulet, chez Lise, Café Repère d'Anduze. Merci, au revoir.
Ah bah ça tourne beaucoup mieux sans la moto, hein. Une intro au piano de Hank, un coup de batterie d'Arc Blackie, le groupe des frères Jones, c'est quand même autre chose. Something Else, qui ferait l'album de Cannonball Adderley. C'est la trompette de Miles. Bah ouais. Merci, bye bye.
Bravo, mais elle reviendra à la moto, n'ayez crainte. Aujourd'hui, là-bas, si j'y suis, reçoit Richard Labévière, auteur de « Quand la Syrie s'éveillera ». Les auditeurs d'Inter et de là-bas, si j'y suis, qui écoutent de temps à autre RFI, Radio France Internationale, vont reconnaître la voix de mon invité aujourd'hui, Richard Labévière, qui n'est plus à RFI, hein, il faut bien dire.
Non, depuis août 2008.
Voilà. On avait évoqué les raisons pour lesquelles vous n'êtes plus à Radio France Internationale. Ça ne vous empêche pas de continuer à œuvrer, à travailler et à écrire, notamment un livre sur la Syrie, « Quand la Syrie s'éveillera ». Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Richard, je vous ai fait venir pour vous raconter une petite histoire. Un jour, le courage frappe à la porte de la peur et demande « Qui est là ?» Et la peur répond « La peur ». Alors le courage entre et il n'y a personne. Et je pense que c'est ce qui est arrivé en Tunisie. C'est-à-dire que tout d'un coup, les Tunisiens ont surmonté une peur de 20 ans. 20 ans de peur. Et soudain, ils ont réussi à surmonter cette peur qui était la leur. Et je veux absolument qu'on commence par cet hommage à la Tunisie. Même si c'est une métaphore jolie comme tout, bien sûr qu'il y a des raisons à ça. Mais si vous êtes là, c'est pour que vous nous expliquiez, avec votre vision à vous, qui n'est pas une vision neutre des choses, ce qui s'est passé là et ce qui est en train de se passer, puisque à l'heure où nous enregistrons, il y a des affrontements assez terribles au Caire, en Égypte, mais on évoque vraiment un bouleversement. Hein, on est en train de vivre un bouleversement au Proche-Orient, au Moyen-Orient, au Yémen, on évoquera aussi, et puis un peu partout. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Commençons par la Tunisie, puisque c'est là que ça a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Comment on en est arrivé là?
Écoutez, moi, il se trouve que j'ai le souvenir de la révolte du pain de 1983. Hein, c'est pas la première fois qu'il y a des embrasements fulgurants en Tunisie qui sont liés au prix de la farine. J'étais au festival des traditions sahariennes de Douce en février 83, où il y a toujours les réunions de tribus des oasis du sud des plus au sud de la Tunisie. Et pendant le festival, une annonce a été faite d'une hausse très importante de la farine. Et là, la révolte du pain de 83 est partie de Douce, de cette oasis du sud, et a enflammé toute la Tunisie. C'est Mohamed Mzali qui était le premier ministre à l'époque. Et très vite, il a dû faire des contre-annonces, des contre-feux en annulant ces hausses de prix. Bon. Donc là, je dirais, les révoltes du pain de la faim sont un peu récurrentes en Tunisie. C'est pas la première fois que ça se passait. Là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le fait que ce jeune Mohamed Bouazizi s'immole par le feu, ça a été effectivement un acte désespéré, emblématique de cette révolte de la faim, mais qui a ouvert une séquence, finalement, qui n'a pas eu lieu en 83. Cette séquence, elle a débouché sur les gens, effectivement, déshérités qui ont des problèmes d'alimentation et d'approvisionnement. Et elle a été relayée par une jeunesse nouvelle, plus importante d'universitaires et de gens diplômés sortant des universités au chômage. Et en troisième lieu, elle a été relayée par les vieux crabes, si j'ose dire, de l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, du syndicat tunisien, qui jouait peu ou prou le jeu du régime, mais d'une manière non participative, en tout cas assez critique. Et là, ils sont entrés dans la danse. Et c'est tout ce qui a fait la différence. Enfin, in fine, dernier élément de cette séquence, ça a été, je dirais, la plus que neutralité, sinon la bienveillance de l'armée tunisienne, qui est une armée de conscription, une armée immergée dans la population, dans les familles. Et donc, cette armée tunisienne et son ancien ministre de la Défense, Kamel Morchane, ont eu un rôle absolument déterminant dans l'absence de répression et dans le basculement, sinon dans l'annonce, cette fameuse annonce, un peu similaire à celle qu'a faite Moubarak, en disant « je ne me représenterai pas, je quitterai le pouvoir et nous allons organiser la transition ».
Alors, évidemment que ces scènes tunisiennes, ces images exaltantes, d'abord exaltantes.
Bien sûr, parce que
il y a un romanesque, il y a un romantisme dont on ne peut pas faire mystère. Et bien sûr, ces images ont été vues par le monde entier, par le Maghreb, par le monde arabe en général. Mais avant qu'on parle des conséquences et de la suite, je voudrais que vous nous parliez un peu des raisons pour lesquelles la France a été si complaisante envers le régime tunisien, si aveugle, en mettant les choses au mieux aveugles et en mettant les choses au pire complaisantes.
Alors bon, il est clair que bon, la figure, c'est comme au patinage artistique, hein, quand on parle de ça, on va vous dire, bon, il est clair que l'ancienne puissance tutélaire coloniale est la moins bien placée pour parler. Si elle parle, elle est dans l'ingérence, si elle dit rien, elle est dans l'indifférence, et on est sur le fil du rasoir, et ça vaut en tout cas dans les pays du Maghreb, plutôt pour l'Algérie que pour les autres pays. Là, il est clair que, je dirais de manière structurelle, tant sous le président Mitterrand que sous les régimes de droite successif jusqu'à l'exécutif actuel, il y a un soutien au président Benani et à son régime clanique qui relève d'une politique délibérée, tout à fait claire, qui est une politique structurelle avec l'establishment parisien de la classe politique gauche-droite confondue, ayant villégiature à la Marsa, dans la bonne société de Tunis et dans l'oligarchie financière et politique tunisienne. Donc là, c'est très clairement un choix du pouvoir exécutif récemment, avec non pas une faillite de la diplomatie comme c'était annoncé, etc. C'est simplement un ambassadeur sur place, en particulier, on voit les télégrammes qui confortent les options du château, les options de l'Élysée. Donc là, une partie de la presse a tapé sur la diplomatie. Je veux dire, Yves Aubin de la Messuzière, qui a été ambassadeur de France en Tunisie, qui lui, contrairement à ses successeurs ou ses prédécesseurs, recevait les opposants et les responsables de la société civile, l'a absolument expliqué. Je veux dire, très clairement, ce n'est pas une faillite de la diplomatie française, c'est un choix de politique délibéré.
Donc, Michel Alliomari n'a fait que dire tout haut ce qui se faisait régulièrement.
Bien sûr, mais alors avec beaucoup de maladresse, puisque quand et l'appui jusqu'au dernier moment sur la base des télégrammes de son ambassadeur, le gouvernement vacillant de Ben Ali, en s'excusant le dimanche dans la presse de son intervention maladroite aux réponses aux questions de l'Assemblée nationale en disant qu'il s'agissait de former, d'aider à la formation des policiers français. Ça fait 20 ans qu'ils sont formés en France, les policiers français. Donc là, on nous raconte des histoires. C'est très, très maladroit sur le plan des éléments de langage, comme on dit au Quai d'Orsay, mais sur le plan diplomatique. C'est une catastrophe. Et la meilleure preuve, c'est que le rendez-vous diplomatique important, qui était le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba quelques jours plus tard, eh bien, Mme Alliomari était punie. Elle est restée à Paris et le président Sarkozy a été seul à Addis Abeba faire un discours et affirmer son soutien au peuple tunisien et égyptien. Et Mme Alliomari, on l'a plus entendue et elle était officiellement chargé de s'occuper des affaires consulaires et du rapatriement des Français d'Égypte en France. Bon, tout ça est quand même très mal géré.
Avec toujours brandi, toujours prêt à être brandi, l'épouvantail de l'épouvantable islamiste.
Alors,
Sarkozy nous disant, en somme, il y a un peu de temps, c'est ça ou les talibans.
Alors, le problème, c'est que, disons que cette argumentation a pu être fondée, je dirais, dans les années 88-98, dans la mesure où, et là, on peut le comprendre, La France a eu un problème majeur avec le processus électoral algérien qui a abouti à la victoire du fils du Front islamique du salut en décembre 91. Souvenez-vous, interruption du processus électoral, instauration d'un haut comité d'État militaire à partir de janvier 92 en Algérie, ouvrant une séquence de la décennie sanglante qui avait démarré en 88 jusqu'en 98, une guerre civile interne en Algérie qui a fait au bas mot 300 000 morts. Bon. Là, il est clair que ce qui se passait sur la scène algérienne, la confrontation entre le FIS, puis les groupes islamiques armés algériens et l'armée algérienne, évidemment, avait des effets de sanctuarisation dans les pays voisins, au Maroc et en Tunisie notamment, et qu'à ce moment-là, effectivement, la France pouvait se prévaloir du soutien de Ben Ali pour éviter que le FIS et les groupes islamiques armés algériens ne sanctuarisent leur position, leur base arrière armée dans ce pays. Sauf que la problématique, elle a évolué avec le temps. C'est-à-dire que ces groupes, les descendants des GIA, GSPC, voire ACMI aujourd'hui, qui se sont redéployés dans le sud ou l'extrême sud, dans la zone sahélienne, Mali, Mauritanie, Niger et autres, je dirais, n'ont plus concerné directement la Tunisie, où on a eu une survivance de partis Ennahda et d'islamistes, je dis modérés entre guillemets, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, islamistes modérés, mais en tout cas, un parti issu des frères musulmans qui ne sont pas...
C'est pas des djihadistes
qui ne sont pas des talibans et des groupes armés, et qui, on le voit en Tunisie, vont vraisemblablement, avec certainement un poids politique important, s'intégrer et sinon s'adapter à une transition. Une reconstruction politique en Tunisie.
Alors aussitôt, on a dit ça va s'étendre, ça va faire modèle, ça va faire domino. On a vu des mouvements violents en Algérie, on a vu des manifestations, des mouvements aussi plus modérés au Maroc. Et puis finalement, c'est en Égypte, au Caire, que les choses ont explosé.
Alors là aussi, très brièvement, sur le Maghreb. Le Maghreb, sa structuration géopolitique, très schématiquement, c'est la colonisation et la décolonisation. Disons que ces trois pays, Tunisie, Algérie, Maroc, ont des similitudes, mais aussi de grandes différences. Si on parle du Maroc, le Maroc, vous avez la dynastie chérifienne depuis le Xe siècle, qui, en droite ligne du prophète, qui donne une structuration au pays beaucoup plus avancée que ne l'est ses autres voisins. Et même la Tunisie, comparée au troisième grand du Maghreb, qui est l'Algérie, la Tunisie, dans sa confrontation antique entre Carthage et Rome, a structuré un espace, des grandes familles, des marabouts et une aristocratie, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. Le gros problème, bien évidemment, c'est l'Algérie, où là, on a une situation tout à fait atypique, très très conditionnée par la décolonisation et la guerre de révolution nationale, entre guillemets, où l'armée a la légitimité de la libération et de la décolonisation, donc sur laquelle repose la légitimité de la République algérienne. Le maillage, si vous voulez, social, le maillage politique de l'armée algérienne, qui n'est pas l'armée chilienne ou une autre armée, mais qui a cette légitimité historique dont je parlais, eh bien, fait que l'effet de contagion, comme on a pu dire de manière un peu pressée sur ce pays, est certainement très aléatoire. Il y a eu des jeunes qui se sont aussi immolés, il y en aurait 8 ou voire une dizaine d'après les sources qu'on peut avoir. Ça n'a pas déclenché, il n'y a
pour
pas
l'instant.
Pour l'instant, évidemment, parce qu'il faut toujours rester prudent de ce point de vue-là. Le père Hegel disait que l'histoire a toujours plus d'un tour dans son sac. Et
l'histoire
n'a pas dit toutes ses ruses. Alors, il est clair que, pour l'instant, le pouvoir algérien dans ses différents opérateurs sécuritaires, que sont l'armée, la gendarmerie et les services, tiennent. Puis, l'Algérie vient d'importer des quantités importantes de blé, ce qui veut dire que l'Algérie, qui bénéficie d'un considérable encaissement pétrolier et gazier, on a l'habitude de dire que c'est un pays très riche et une population pauvre. Là aussi, visiblement, va adopter des politiques sociales et faire de la redistribution sociale à tour de bras pour essayer de détendre la situation.
Donc, on a vu que c'était le cas aussi au Qatar.
Oui, absolument.
On a vu que le Qatar, pour essayer d'éviter les manifestations, a commencé à distribuer des biens comme ça à la population.
Et alors, on parlait d'effets domino, d'effets de contagion, de taches d'huile et autres. Et
contagion, c'est très maladroit. Ça voudrait dire que c'est une maladie.
Exactement. C'est sur le plan de la sémantique, c'est vrai que c'est pas très heureux.
Il y a un impensé formidable.
Absolument. Là, l'inconscient en creux est quand même assez révélateur. Mais il est clair que d'une certaine façon, c'est à la fois étonnant dans sa rapidité, mais pas très étonnant dans sa configuration et une fois encore dans sa géopolitique, que l'effet direct se porte sur l'Égypte. De toute façon, la révolution tunisienne, cette très belle histoire populaire, de fait, marquait, les orientaux sont très marqués par les symboles, le discours, les images sont effectivement très importantes, et avec aujourd'hui les chaînes satellitaires et autres, eh bien, et là, une réception, une résonance incroyable en Égypte, pour la bonne et simple raison qu'on retrouve les ingrédients, si vous voulez, de la séquence tunisienne, révolte de la faim, jeunesse formée et cadrage de la société civile, avec évidemment...
Pouvoir autoritaire, corruption...
Voilà, exactement, et on est sur cet enchaînement. Le Caire, c'est 22 millions d'habitants. Il y a une ceinture de bidonvilles qui, imaginez-vous, 7 millions de Kairotes vivent dans des bidonvilles. Donc là, ça fait des années que les gens qui travaillent un peu sur le Caire et sur l'Égypte disent qu'il y a une bombe sociale qui risque de péter à tout moment et que la question sociale en Égypte est la principale préoccupation du pays, du pouvoir politique égyptien qui est un pouvoir militaire depuis Nasser, de toute façon. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a ces images, ces symboles forts. Eh bien là, il y a une dignité des Égyptiens, je dirais, à faire au moins aussi bien que les Maghrébins, compte tenu du fait que le contexte géopolitique du Maghreb n'est pas celui du Mashrek et de l'Égypte. L'Égypte, c'est le pays sunnite important, le pays arabe le plus important, siège de la Ligue arabe, siège à la fois des officiers libres, du nasserisme qui va incarner le nationalisme arabe, siège aussi, dans la fin des années 20, 28, de la confrérie des frères musulmans
d'Hassan al-Banna,
et donc qui, si vous voulez, a toujours incarné le leadership sunnite. Oui, oui. Beaucoup plus que les monarchies pétrolières et les plutocraties des Saouds et des autres.
واحد من الماجوريتي سيلونسيوز ما نحبش نعمل بوز pour la vérité je creuse sound of freedom un soldat qui vient de l'armada je me pose des questions mais tout le nizam est contre l'oppression حل عينيك تحس بالتنسيون جاوم كارب لك سيد ضارب في بلاد الحوشه ولا خارب العقار ضارب العباد تحارب تتضارب ماجيتك شي طالب بحقي طالب شعبي الله غالب حبوا يردوا كيف القالب بلاش قلب بلا ما طالب تيفيك انفيزي Rest in peace, محمد البوعزيزي من سيدي بوزيد شكون الجلاد شكون السيد الاستعباد خلق شهيد Encore une victime, encore un suicide بين القانع والملهوف بين القصر والخيمة بين اللي بات عريش واللي تمد عالسيمة Don't stop, fight for your right man We don't stop, and you can see the light man You don't stop, the rap, the music of revolution I dream the end with devotion Don't stop, fight for your right man We don't stop, and you can see the light man You don't stop, the rap, the music of revolution I dream the end with devotion
Identité nationale متاع التونسي هذه هي
On continue avec Richard Labévière. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un bouquin, on va en parler évidemment, de la Syrie, quand la Syrie s'éveillera. Et on fait un tour d'horizon de cette révolution qui est en cours, dont effectivement personne ne peut prévoir l'issue. Toujours est-il qu'il y a déjà quelque chose qui est acquis, c'est l'image de l'arabe, entre guillemets, dont les médias a complètement changé. D'habitude, c'est des gens qui vocifèrent, qui brûlent des drapeaux, qui sont à quatre pattes dans les rues en train de se prosterner. Là, tout d'un coup, ça change. On voit que c'est des gens qu'on connaissait depuis longtemps. C'est des gens des lumières, c'est des gens qui aspirent à la liberté, à la dignité, à l'égalité, etc.
C'est un fantastique pied de nez à la fausse notion des chocs des civilisations et à cette confrontation orient-occident.
Et puis ça vient à un moment où on avait en France une nouvelle vague d'islamophobie et ça contredit ça et pour ça au moins c'est passionnant. Vous avez commencé, Richard, à parler des frères musulmans, là aussi, alors là en Égypte, on brandit encore davantage ce fantasme. Cet épouvantail, qu'en est-il exactement? Vous l'avez commencé à nous raconter, 1928, naissance de ce mouvement des frères musulmans.
À partir des corporations paysannes.
Alors, est-ce que vous pouvez faire le prof, la Bévière, et nous dire un petit peu de quoi il retourne? Non, mais c'est nécessaire tellement cette histoire est fantasmée.
Alors, l'histoire d'Hassan al-Banna, qui est instituteur à Minya, surtout en Haute-Égypte, si vous voulez, va être très, très impressionné par le mouvement des corporations de métiers dans l'Italie de Mussolini. Et il va bénéficier, si vous voulez, d'un substrat anthropologique, d'une donnée de base, de confédérations paysannes en Haute-Égypte qui sont très organisées et qui produisent du lien social et qui structurent des communautés. Et à partir de ces communautés, Hassan al-Banna va, comme Saïd Qotoub en Arabie Saoudite au XVIIIe siècle, siècle va être un prédicateur, va prôner un retour à la pureté des textes fondateurs de l'islam que sont le Coran et la Sunna et les hadiths, les traductions, les interprétations de l'écrit en acte, si vous voulez, dans les populations. Et il va développer, il va avoir un succès incroyable dans ces populations rurales en attente de cadrage de spiritualité et de quête d'identité, en même temps de quête d'une identité politico-religieuse. Et donc l'histoire des frères musulmans va partir de Haute-Égypte et va gagner, je dirais, les collègues d'Hassan al-Banna, instituteurs, une classe moyenne, une bourgeoisie commerçante, une bourgeoisie du secteur tertiaire, des petits fonctionnaires du roi Farouk et autres, et donc va, si vous voulez, devenir certainement, avec le temps, l'un des structurants les plus important de la société égyptienne. Et il est clair qu'au moment du basculement de Farouk et de l'arrivée au pouvoir des officiers libres, les frères musulmans vont participer, bien sûr, avant que n'émerge Nasser, les frères musulmans vont participer à ce mouvement de renversement du roi Farouk, considéré comme un allié aux Britanniques et à un régime occidental impie.
Donc il y a une composante nationaliste.
Néanmoins une composante nationaliste. Et alors, là où les choses vont se détériorer, une fois que Nasser va émerger, si vous voulez, comme l'incarnation du nationalisme arabe qui va au-delà d'Égypte, qui va incarner les espoirs du monde arabe et sa participation au sommet de Bandung avec Nehru et les autres, au mouvement des non-alignés entre l'Union soviétique et les Américains. Et qui plus est, quand, après l'affaire du barrage d'Assouan où les Américains retirent leur bille et donc et poussent d'une certaine façon Nasser dans le bras de l'Union soviétique, le nationalisme arabe, si vous voulez, va se confondre avec l'URSS et le pacte de Varsovie. Et très clairement, le nationalisme arabe va profiter de la logistique soviétique et du pacte de Varsovie. Et partant de là, il est clair que les frères musulmans vont entrer en confrontation directe et en conflit frontal avec Nasser et le nationalisme arabe qui va incarner, sinon le marxisme-léninisme, en tout cas des idéologies laïques, onis, nationalistes, qui sont aux antipodes, si vous voulez, de l'enseignement principal d'Hassan al-Banna, de la Rouma, de la réconciliation et du rassemblement de l'ensemble des fidèles au-delà des frontières nationales considérées comme héritées du colonialisme. Donc là, très vite, les Américains, en pleine guerre froide, vont comprendre l'opportunité de ces sunnites radicaux et vont instrumentaliser. L'OSS, l'ancêtre de la CIA, va instrumentaliser les frères musulmans pour déstabiliser les officiers libres, déstabiliser les nationalistes arabes.
C'est la logique de la guerre froide.
C'est effectivement la logique. Mais la même logique de soutien aux frères musulmans, aux wahhabites saoudiens, va culminer jusqu'à à fabriquer Oussama Ben Laden en Afghanistan, fin des années 90, début des années 2000, et va amener jusqu'au septembre une instrumentalisation de la part des administrations américaines successives du sunnisme politique sino-radical des frères musulmans, des wahhabites et d'autres mouvements. Au départ, le Hamas, les frères musulmans dans les territoires palestiniens, étaient implantés avec l'aide des services américains et de l'armée israélienne pour embêter l'OLP d'Arafat, qui était laïque et marxisante, souvenez-vous, dans les années 70. Donc ça a quand même été une politique de gribouille qui a perduré longtemps, et même après le 11 septembre 2001, dans d'autres régions en Asie centrale et dans d'autres pays. Donc là, très clairement, si vous voulez, les frères musulmans sont devenus les alliés du pacte de Bagdad, c'est-à-dire qui était dans les années, la fin des années 50, qui était censé répondre, justement, faire face à l'Égypte et au nationalisme arabe qui avait fait le choix de l'Union soviétique.
Aujourd'hui, Richard Labévière, dans la situation où nous nous trouvons, enfin où se trouve l'Égypte, quel est le rôle des frères musulmans? Quel est le rôle des islamistes? Sont-ils dans la bagarre? Sont-ils sur la place Tahrir? Quel jeu jouent-ils aujourd'hui? Et quels jeux peuvent-ils jouer au cas, ou ce que nous souhaitons bien sûr, où la démocratie arriverait dans cette Égypte?
Alors très clairement, si on veut faire vite, il y a deux acteurs politiques majeurs en Égypte. Il y a bien évidemment l'armée, qui est composite, qui n'est pas monolithique, et il y a les frères musulmans, depuis la fin des années 20, comme on le disait précédemment. Et là, il est clair qu'on n'est pas clairement, contrairement à ce qu'affirment M. Netanyahou et Tel Aviv, on n'est pas à la veille d'un processus à l'iranienne comme en 79, où là, le pouvoir de Jimmy Carter démocrate favorise la chute du Shah, pensant qu'il pourrait gérer une transition acceptable pour les intérêts américains. Manque de peau, l'ayatollah Khomeini arrive et on a la révolution islamique. Donc là, aujourd'hui, les Israéliens brandissent ce scénario catastrophe en disant les frères musulmans radicaux vont arriver au pouvoir et faire de l'Égypte une république islamique. Le contexte a complètement changé. C'est-à-dire la Confédération des Frères musulmans reste certainement aujourd'hui en Égypte le partenaire politique d'opposition le plus structuré. Dans le mouvement.
Le plus puissant que,
le plus puissant, certainement. Le mouvement de contestation de ces 10 dernières années, qu'on a appelé Kefaya, ça suffit, qui prônait déjà le départ de Moubarak, qui était structuré, qui regroupait des syndicalistes, des associations d'avocats, de médecins, etc. Le principal partenaire était déjà les frères musulmans. Alors, certes, vous aviez, moi j'ai mon vieux copain Rifat Saïd, de la gauche nassérienne, mais bon, ils ont 70 ans, nos amis de la gauche nassérienne. Il est décédé, paix à son âme, Sid Ahmed, l'équipe d'Al-Aram, Yarachouane, les copains du centre d'études stratégiques d'Al-Aram et tout ça. Bon, tout cela, c'est pas le maillage de la société civile égyptienne qui reste là, les frères musulmans. Moi, j'ai fait l'interview de Mustapha Machour, le Morshed, l'ancien grand guide qui avait été la cheville ouvrière de l'engagement des frères musulmans dans les guerres d'Afghanistan, eh bien, a continué à développer la puissance, y compris logistique, des frères musulmans, qui est une confrérie semi-clandestine que le pouvoir de Sadat et de Moubarak ont toujours plus ou moins ménagé, vu sa puissance et son maillage social. Les frères musulmans au Caire, Al-Tawid, c'est une chaîne, ils ont une chaîne de supermarchés, ils ont des boucheries, des teinturies, c'est une puissance sociale, économique et politique. Donc, c'est un acteur important qui, lui, n'est pas monolithique non plus. La branche extrême des Gamma islamiens qui a assassiné Nasser en 81 n'est pas la branche majoritaire. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les néo-frères musulmans qui sont des entrepreneurs sociaux, qui font des affaires et autres, etc. Donc, les frères musulmans sont certainement un des partenaires absolument essentiels et importants, mais on est loin. En fait, tous les grands experts de l'Égypte, ce que je ne suis pas, ne prédisent pas ou n'achètent pas du tout le scénario mis en avant par Netanyahou aujourd'hui.
Richard Labévière, qu'on reste dans cette région et parler d'Israël.
Oui.
Je suppose qu'en ce moment, les Israéliens et les dirigeants israéliens sont en train de regarder la situation seconde par seconde.
Il y a une grande inquiétude. Il y a une très grande inquiétude. Pourquoi ? Parce que, souvenez-vous, Sadat signe les accords de Camp David en 78 avec Menachem Begin, ce qui instaure une paix froide, ou en tout cas une paix, une stabilité entre l'Égypte, on l'a dit, pays sunnite majeur, siège de la Ligue arabe, et Israël. Bon, là, le problème qu'ont les Israéliens, c'est l'avenir. C'est-à-dire que l'avenir, qu'il soit militaire, qu'il soit une plateforme politique intégrant les frères musulmans peu ou prou, avec un Baradei qui jouera le moment de Kerensky ou d'Antonien, une phase transitoire, mais pas forcément durable. Je ne dis pas que fatalement on arrivera à Robespierre ou à la terreur en Égypte, mais en tout cas, l'inquiétude israélienne, c'est de voir une configuration d'un nouveau pouvoir égyptien qui remette en cause la paix signée avec Israël par Sadat en 78 et qui remettrait l'équilibre et qui referait de l'Égypte un pays hostile et qui ouvrirait de fait un nouveau front, un nouveau rapport de force sur le plan stratégique avec Israël.
Parce qu'il faut rappeler,
ce qui serait sur le plan stratégique une catastrophe pour Israël, dont la principale préoccupation, indépendamment de l'arrière-cour et de la menace nucléaire iranienne, est confrontée sur sa frontière nord, au Liban, mais surtout aux capacités militaires de résistance du Hezbollah, avec une quasi-défaite lors de l'été 2006, là, vous aurez la réouverture d'un front essentiel avec l'Égypte, d'autant que ce qui avantageait les Israéliens dans la gestion que le président Moubarak avait de Gaza et du problème palestinien, c'est que Moubarak jouait le rôle de gardien de l'ordre et de bouclier entre Gaza et Israël. Et que, souvenez-vous, quand il a été question de construire un nouveau mur contre Gaza, c'est le général Souleyman, qui est vice-président, qui est désigné par Moubarak pour assurer l'intérim, c'est l'armée, une partie de l'armée égyptienne qui décidait de la construction de ce mur contre Gaza. Et ce qui, à l'époque, avait créé des frictions au sein de l'armée, parce qu'il y a une armée, je pense à Hussein Tantawi, l'ancien ministre de la Défense, qui, à l'époque, avait tapé du poing sur la table. Et il y a toute une partie de l'armée égyptienne qui n'accepte pas que l'Égypte joue une politique hostile à Gaza et au Hamas, et donc à la résistance palestinienne.
Ce qui risque de se passer, justement, en résistance palestinienne, c'est que les Palestiniens, depuis des années, sont seuls par rapport au reste du monde arabe.
Ils fassent jonction.
Le monde arabe bouge. Hein, ouais. On sait que ce qu'on appelle la rue arabe, c'est-à-dire l'opinion populaire, notamment en Égypte, est très favorable aux Palestiniens et qui ne le serait pas quand on voit le sort qui est le leur. Ça risque de changer. C'est-à-dire que les Palestiniens isolés, qui ont été politiquement isolés du reste du monde arabe, risquent de l'être moins.
D'autant que vous avez vu des scènes de rue de manifestants sur la place Tahrir qui tapaient sur les chars en disant « Mais ils étaient où ces chars pendant la dernière intervention israélienne au Gaza ?» Donc il y a de fait entre l'homme de la rue de l'immeuble Yacoubian, le kérot de base, le chauffeur de taxi ou les chiffonniers ou les gens, la classe populaire défavorisée d'Égypte, sont en empathie totale avec les Palestiniens. D'autant que beaucoup de Palestiniens peuplent ces quartiers populaires. Il y a une diaspora palestinienne au Caire incroyable, qui est difficilement évaluable sur le plan statistique. Mais, donc il y a effectivement une empathie naturelle, si j'ose dire, historique par rapport à l'évolution et au sort fait au peuple palestinien aujourd'hui. Donc c'est la plus grande crainte de la partie israélienne de voir cette jonction se faire entre Gaza, sinon le Hamas palestinien, et une Égypte politique renouvelée qui, bien évidemment, changerait du tout au tout la donne stratégique dans la région. Raison pour laquelle le pouvoir israélien peint le diable sur la muraille en disant « Attention, on se prépare un nouvel Iran en Égypte », ce qui est totalement irréaliste.
Je pense à toi en cette heure sombre où ta région s'enfonce tous les jours sous les bombes. J'avais envie de te redire mon admiration profonde pour la force des tiens de rester digne, même sous les décombres. Pour votre détermination à toujours reconstruire, à garder le sourire après avoir tellement eu à souffrir. Ils mettent à feu et à sang au nom de l'Occident, mais cet Occident-là, jamais je n'irai me compter dedans. Et face au silence des puissances qui laissent les bombes pleuvoir, te dire mon amitié est mon seul pouvoir. Je suis spectateur de la démesure et de la peur. Ils vont en vous la terreur à l'heure où vous pleurez vos morts. On m'avait dit, n'y va pas, là-bas ils sont tous terroristes. J'ai vu combien ce préjugé vous rendait triste. J'ai vu que chez toi, on prie en paix Allah et le Christ, et que c'est en rêvant de paix que beaucoup résistent.
Alors, continuons, on a hélas peu de temps. On va aller dans un pays que vous connaissez bien, la Syrie. Votre livre s'intitule « Quand la Syrie s'éveillera ». Richard Labévière, dites-nous, pourquoi est-ce que pour l'instant, ça bouge très peu en Syrie, si j'ai compris?
Alors moi, le réveil de la Syrie qui a déjà commencé, je l'explique dans ce livre avec mon co-auteur Talal Al-Atrash, qui est un jeune journaliste syrien de Soueda, druze, du sud de la Syrie. Je dirais, nous suivons l'évolution de la Syrie qui suit un tout autre chemin par une évolution interne, là aussi très différente de ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte. Pourquoi? Parce que autant les Américains sont des partenaires essentiels pour l'Égypte, l'armée égyptienne, voire le rôle que joueraient les frères musulmans dont on vient de parler. Autant l'Égypte fait partie de ce que Condoleezza Rice appelait les pays arabes modérés, où là, les États-Unis décident pas de la rue égyptienne, mais vont peser sur l'avenir de l'Égypte, indéniablement, parce que au-delà d'Israël, l'Égypte, contrairement aux chiffres qu'on avance, en cumulé aide militaire et civile, c'est 3 milliards de dollars par an, c'est autant qu'Israël, pratiquement. Donc on voit l'importance. La Syrie, dans le découpage fait par les néoconservateurs américains, les stratèges du Pentagone, qui n'ont pas changé avec l'arrivée d'Obama, fait partie de l'axe du mal. C'est-à-dire, on est dans un tout autre contexte géopolitique. L'arrimage stratégique de la Syrie à l'Iran fait que ce ne sont pas ni les Européens, surtout pas les Américains, qui vont décider de l'avenir, y compris de la gestion des mouvements sociaux en Syrie et autres. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est un facteur historique. C'est que bien que le pouvoir de Bachar al-Assad, alawite, secte chiite, représente une minorité dans une population sunnite majoritaire, il ne faut pas oublier qu'avant l'Égypte, le berceau du nationalisme arabe de Michel Aflaq et de Bittar, eh bien, c'est la Syrie. La Syrie, c'est un pays aujourd'hui qui, dans ses 20-22 millions d'habitants, est un pays, certes, où la charia et l'islam est dominant sur le plan culturel et à des incidences politiques, mais c'est un pays laïque où les communautés religieuses cohabitent. C'est le grand moufti de la République tient un discours laïque de séparation du politique et du religieux et où ces différentes confessions et communautés cohabitent. Les chrétiens aujourd'hui, qui sont expulsés à coups de kalachnikov par les Peshmerga, les amis de M. Kouchner en Irak, ils vont se réfugier où? Ils vont se réfugier
en Syrie.
En Syrie, il y a 2 millions de réfugiés en Syrie, dont 1,5 million de chrétiens. Ils se réfugient un peu au Liban, mais ils préfèrent être en Syrie, qui est un pays, de ce point de vue-là, qui s'éveille. Quand on dit qu'il s'éveille, c'est-à-dire où le facteur national est très important.
Oui, moi, j'étais à Damas. C'est quand même un régime autoritaire.
Oui, c'est un régime autoritaire.
C'est un régime autoritaire. Pourquoi est-ce que, pour l'instant, la population ne se... en voyant ces images, en recevant ces nouvelles.
Alors, moi j'aurais tendance à vous dire, j'étais à Damas quand, en novembre 2005, quand Bachar al-Assad a fait le discours fondateur de son pouvoir actuel en réponse à Detlev Meliss et aux accusations de la communauté internationale qui accusait la Syrie et le régime d'avoir tué Rafik Hariri. Bon. Là, ce qui m'avait frappé, j'ai suivi ce discours avec des étudiants dans des cafés. C'est un discours qui était prononcé par Bachar al-Assad symboliquement à l'université de Damas. Et les étudiants sunnites, druzes, chiites, alaouites, etc., se promenaient en délégation de la rue avec un drapeau syrien et pour se mobiliser contre les ingérences américaines occidentales en Syrie et revendiquaient, mettaient en avant le fait national. Je dirais qu'en Syrie, le fait national, il est très affirmé, c'est un ciment politique. Alors certes, la Syrie, ce n'est pas la Confédération helvétique, c'est vrai, c'est mais le régime autoritaire n'a pas... Tuer n'a pas, au contraire, favorise une société civile, associative, culturelle et autres, etc. Donc, on n'a évidemment pas d'élections pluralistes comme on peut les connaître dans les pays occidentaux, mais ça n'est pas comparable à la mainmise clanique de Ben Ali sur la Tunisie ou à la plutocratie de Moubarak qui gère le pays, en fait, avec une armée qui a nationalisé les autoroutes. Là, la Syrie s'est ouverte et commence à s'ouvrir et à s'éveiller sur le plan économique également, avec la décartélisation de son secteur bancaire, avec des pans de l'économie qui sont en train de s'ouvrir, etc. Et le dernier élément très important, l'évolution, cette ouverture de la Syrie, évidemment, crée des disparités sociales, mais même si vous avez effectivement des bidonvilles et des disparités avec une classe moyenne d'affaires arrogante aussi à Damas, il n'y a pas de gens qui crèvent de faim parce que très tôt, Bachar al-Assad, en arrivant au pouvoir, il est arrivé au pouvoir en 2000, mais en affirmant son pouvoir et la succession que lui laissait son père, il a, si vous voulez, compris assez vite qu'il fallait ouvrir les robinets sociaux. Et donc, chaque fois qu'on avait une augmentation du fioul ou du pain, etc., eh bien, vous aviez des ajustements, vous aviez des politiques de suivi, d'ajustement social pour éviter que le mécontentement ne se cristallise sur le régime.
Alors, on va finir, Richard, avec le Yémen, où là, ça bouge. Et en évoquant le Yémen, on va bien montrer la diversité de ce monde arabe, qui n'est évidemment en aucun cas un bloc, vous venez de le dire. Il y a une diversité de situations, d'histoires, de présents, de mythes, etc. Et c'est le cas, évidemment, du Yémen, qui est un pays arabe. Alors là, vraiment...
Mais c'est Felis Arabia, c'est l'arabe de la péninsule arabique, l'arabie heureuse.
Ouais, c'est ça.
Et vous avez raison de dire que c'est aussi un îlot très, très particulier, c'est une république. Et là, ça bouge aussi. Mais comme les médias n'ont pas la capacité de gérer plusieurs crises en même temps, c'est-à-dire qu'on suit la Tunisie, après on passe à l'Égypte, on oublie le reste du monde. Aujourd'hui, le processus de crise au Yémen, qui est ancien, qui dure depuis 2-3 ans, essentiellement, qui s'est cristallisé sur la révolte houthiste, qui est une minorité chiite du nord du Yémen, et qui est en lutte contre le pouvoir central, le Sanaa, eh bien, ce mouvement qui a fait des milliers de morts et dont la presse occidentale, évidemment, ne parle pas, eh bien, est en train de se radicaliser, de faire jonction avec un autre problème que connaît le Yémen, c'est l'irrédentisme du Sud. Rappelons que le Yémen était un pays séparé entre le Nord et le Sud, la République socialiste du Sud.
Et autour d'Aden, avec Aden comme capitale.
Avec Aden comme capitale. Et le nord autour de la capitale Sanaa, qui est la capitale du Yémen réunifié, après une guerre très meurtrière, qui s'est terminée en juillet 1994, qui a donné une réunification, mais très insatisfaisante, où on a vu le président Saleh, toujours actuellement au pouvoir au Yémen, qui est au pouvoir.
Il est là depuis combien de temps,
Saleh ? Il est là depuis 1972, vous voyez. Et il y a quelques années, il prévoyait de faire comme Kadhafi, comme Moubarak. Il prétendait mettre son fils à sa place pour lui succéder. Or, qu'est-ce qui s'est passé, hormis la révolte chiite du Nord ? Depuis quelques années également, le Sud a servi de réduit, de sanctuaire à ce qu'on appelle des Afghans, à des djihadistes qui sont rentrés d'Afghanistan au début des années 90 et qui se sont installés dans la vallée de la Darmarout, entre Marib et Taiz, entre Aden et Moukalla.
Berceau d'Al-Qaïda.
Berceau de la famille Ben Laden, et donc effectivement d'Al-Qaïda, et du retour sanctuaire de la nouvelle génération d'Al-Qaïda qui commerçait le cat entre la Corne, la Somalie et le Yémen. Bon, eh bien, Si vous voulez, ces djihadistes ont fait la jonction avec les anciens socialistes du Sud, qui considèrent que le pouvoir du Nord et du président Salé est illégitime parce que le président Salé, évidemment, a mis tous les gens de sa famille et du clan du Nord au poste clé économiquement qui rapporte de l'argent dans le Sud, donc le commerce du Cat, l'immobilier, le tourisme, etc. Donc là, vous avez un très grand mécontentement des tribus, puisque le Yémen est une république tribal, dont l'équilibre politique repose. Alors, il y a des élections législatives, peut-être les plus libres du monde arabe, en tout cas beaucoup plus libres que le voisin saoudien ou toute la région, mais qui repose sur une socialité tribale. Et donc, ces tribus du Sud en ont assez de la mainmise des parrains du clan Salé du Nord sur leur richesse du Sud. Et donc là, on commençait déjà un processus de contestation du pouvoir central de
sécession, non ?
De sécession, ah, oui. De sécession. D'autant qu'ils ont fait, comme je disais, ils ont fait jonction avec des djihadistes afghans qui ont trouvé refuge au Yémen. Et donc là, on est dans la montée en puissance d'une dynamique de contestation du pouvoir du président Salé à Sanaa, qui peut là aussi très très mal tourner au Yémen. D'autant qu'il s'agrège, comme on l'a dit, avec une problématique d'irrédentisme aussi au nord, où, si vous voulez, on assiste à des ingérences saoudiennes qui ne sont pas désintéressées parce que cette région est pétrolière et où la situation du Yémen sert de laboratoire à la succession enclenchée pour le trône saoudien et où on retrouve la confrontation et l'affrontement classique et traditionnel entre les soudéries et les chamars.
On vous écoute vraiment à chaud, là. Hein, c'est des analyses à chaud. Ce qu'on va faire, Richard, pour finir, on va se promettre de réécouter cette émission dans un an.
Oui, 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 ça sera assez drôle. Et
on va réécouter dans un an.
Ça risquera d'être assez
étonnant. On va voir
là-dedans
qu'est-ce qui s'est passé, les erreurs, le flair, les prévisions qui s'avéreront vraies ou non. On ne peut que spéculer. Mais en tout cas, je vous remercie parce que ça nous donne quand même une idée. Et c'est des moments où des journalistes comme vous, puis comme nous aussi, qui nous intéressons aux autres. On a tellement de mal à ce que nos contemporains s'intéressent au reste du monde, que tout d'un coup, là, cet intérêt pour le reste du monde nous réjouit tous. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, merci à tous, merci à Richard Labévière. Les reportages à Paris au Métro Couronne étaient d'Inès Léraud. Le bouquin de Labévière, Quand la Syrie s'éveillera, coécrit avec Talal El Atrash, c'est chez Perrin, les éditions Perrin. Une manifestation en soutien aux manifestants d'Égypte aura lieu samedi à partir de 14h30, place de la République à Paris. Et puis tout à fait autre chose, merci à tous ceux que j'ai rencontrés hier soir à Toulouse. C'était vraiment un grand moment très chaleureux, merci à tous. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ou bien sur là-bas.org. Yann Bouillot et Gilles Gaillard étaient à la technique aujourd'hui, Koyen Guyen et Franck Alérère ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Lebot et Marina. Attends vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Il est 16h et quelques secondes sur Inter. On se retrouve lundi à 15h pour Là-bas si j'y suis. Bon week-end à tous. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
Les tentatives de faire taire les médias étrangers continuent en Égypte. Le matériel des envoyés spéciaux de Radio France au Caire a été saisi à leur hôtel et le bureau de la chaîne de télévision Qatari Al Jazeera saccagé par des inconnus. À Paris, des militants de Reporters sans frontières ont manifesté devant l'ambassade d'Égypte. Un journaliste du Figaro et un reporter de la société de production audiovisuelle Magneto Press ont été arrêtés au Caire. La liste des journalistes agressés, arrêtés, lynchés, passés à tabac ne cesse de s'allonger, déplore RSF. Dans les rues du Caire, la manifestation géante à l'appel de l'opposition se tient sans incident. Comme mardi dernier, c'est une véritable marée humaine. Des centaines de milliers d'Égyptiens qui se sont rassemblés sur la place Tahrir pour réclamer le départ immédiat du président Hosni Moubarak. Les partisans du président ne se sont pas montrés aujourd'hui et l'armée contrôle les accès à la place. En province, les manifestants sont des dizaines de milliers à Alexandrie et à Louxor. Réunis en sommet à Bruxelles, les dirigeants européens ont mis en garde les autorités égyptiennes contre tout nouveau dérapage. À ce même sommet de Bruxelles, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont proposé un pacte de plus grande convergence économique entre les 27, et ce pour soutenir l'euro. Objectif des deux dirigeants, faire adopter ce pacte lors d'un sommet de la zone euro le mois prochain. Selon des résultats encore provisoires, le second tour de l'élection présidentielle au Niger opposera le mois prochain Mahamadou Issoufou, vétéran de l'opposition, à l'ancien Premier ministre Seyni Oumarou, qui appartient au parti du président, renversé l'an dernier par une junte militaire. 9 ans de prison pour le Somalien qui avait tenté d'assassiner un dessinateur danois, auteur d'une caricature du prophète Mahomet. Il avait fait irruption armée d'une hache au domicile de Kurt Westergaard. Âgé de 75 ans, celui-ci vit toujours sous protection policière. Il avait dérobé 11 millions d'euros. L'ex-convoyeur de fonds Tony Musulin est condamné par le tribunal de grande instance de Lyon à verser 270 000 euros de dommages et intérêts à son ancien employeur. La société Loomis lui réclamait 1 million d'euros. L'essentiel du butin avait été retrouvé 2 jours après le vol, mais 2,5 millions d'euros manquent toujours à l'appel. Condamné à 20 000 euros d'amende avec sursis dans une affaire d'emploi fictif dans l'agglomération de Lille, Pierre Mauroy est en colère. L'ancien Premier ministre socialiste et maire de Lille est jugé coupable d'abus de confiance par le tribunal correctionnel. Il étudie la possibilité de faire appel. Lynn Cohen-Solal, qui avait bénéficié d'un emploi d'attachée de presse à la communauté urbaine alors qu'elle dirigeait la rédaction de l'hebdomadaire socialiste Vendredi, écope de la même peine. Tout ce qui a été fait l'a été pour la gloire de Lille, se défend Pierre Mauroy. Dans le sillage des juges du tribunal de Nantes, l'Union syndicale des magistrats, majoritaire dans la profession, appelle à la suspension de l'ensemble des audiences non urgentes dans toute la France jusqu'au 10 février. Il proteste contre les propos de Nicolas Sarkozy, qui a parlé de dysfonctionnement de la police et de la justice dans le suivi de Tony Meillon, le meurtrier présumé de Laetitia, et promis des sanctions. Ferrare, la conférence des premiers présidents de cour d'appel, a également exprimé sa vive préoccupation face à ces propos. À Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, une explosion au gaz dans un immeuble a fait au moins 7 blessés, dont 2 grièvement. Une cinquantaine de personnes ont été évacuées. C'est apparemment une personne âgée de 88 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui avait laissé le gaz ouvert.
L'atelier.
Allez-y, rentrez.
Vincent Josse.
Gérard Garouste est peintre, sculpteur, graveur, mais il se définit aussi comme un homme intranquille.
Un peintre, un fou et un... je sais pas quoi, un fils. C'est pas la folie qui fait un créateur, sinon je vous assure que dans les hôpitaux psychiatriques, il y aurait pas mal d'artistes. Quand on est, ce que je suis, c'est-à-dire maniaco-dépressive, bon ben... c'est plutôt un handicap qu'autre chose.
Retrouvez l'illustrateur de Don Quichotte ou de Faust
demain
dans son atelier.
Dès 19h20.
Bonjour, c'est Eva Bétan. Vous aimez lire? Vous souhaitez faire partie du jury du Livre Inter présidé par Amin Malouf?
Lire, c'est prendre dans ses propres mains la connaissance. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important.
Alors écrivez-nous, parlez-nous de vous, de vos lectures, avant le 21 février minuit, France Inter, Livre Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris CEDEX 16.
France Inter. France Inter. La différence.
Il est 16h05 et la folle journée continue sur France Inter avec le carrefour de l'Odéon en direct de Nantes.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, nous sommes en direct de la folle journée, vous le savez maintenant bien sûr, une folle journée qui est tellement folle qu'elle dure 5 jours, plus les jours en région avant, donc en direct de la Cité des Congrès, avec un public nombreux et sympathique qu'on va entendre tout de suite. Et aussi, c'est très important, avec Claire Désert, pianiste.
Bonjour.
Et puis, oui, un banc pour Claire. et son copain Emmanuel Strasser qui fait semblant de huer, mais qu'on peut applaudir quand même. Honneur à la dame. Ici Claire Désert, vous avez joué combien de fois ici à la Folle Journée?
Attendez que je réfléchisse, 4 fois pour l'instant.
Oui, déjà, c'est un petit brouillard qui vient dans la tête. Normalement, et d'abord, il y a tellement de musique partout. Et alors, ça recommence bientôt, là. Vous avez...
Ça recommence, là, il y a une petite pause et ça recommence demain matin avec voilà. Un récital.
Voilà. Emmanuel Strasser, vous?
6 fois, plus la région, 4 fois. Mais on oublie au bout d'un moment, on oublie. Non, vous?
Ah, pas les auditeurs qui sont là avec
nous. Non, mais c'est bien de beaucoup jouer à la limite ici. C'est presque plus facile que de jouer une fois. On est dans un bain de musique, oui. On passe d'une salle à l'autre, on est un petit peu comme dans un rêve éveillé, ou presque éveillé, ça dépend des fois. Et voilà, c'est 4 jours où on oublie tout. Et on pense à la musique, et là en l'occurrence Brahms, c'est certains de ses collègues.
Il y a quelquefois des réveils matin,
parce que le concert de 9h15, il est du rail celui-là quand
ça
même.
Ça accroche un tout petit peu, oui. Claire Désert, on va entendre sous vos doigts le 6e intermezzo, opus 4 de Robert Schumann. J'ai écouté la pièce évidemment, et j'ai noté exubérant, voire même ébouriffé.
Oui, tout à fait. C'est une œuvre de jeunesse. Et peut-être c'est une des premières œuvres où il y a tous les ingrédients de ce qui fera le style de Schumann. Cette folie, ce langage toujours en rupture, cette grande poésie, cette instabilité. On est sur un pied puis sur un autre. Enfin, c'est tous ces états d'âme qui nous touchent tellement.
Donc ce n'est pas un des titans qui est représenté cette année, puisque c'est plutôt son ami et son disciple, on va dire. J'allais dire élève, non, c'est plus un disciple ou un fils spirituel, Brahms, qui arrive aux côtés de Franz Liszt, bien sûr, même Schoenberg est de la partie, considéré comme très grand moderniste, mais enfin quand même, et qui a su reconnaître d'ailleurs le génie de Brahms contre les théoriciens un peu bégueules. Strauss avec sa casquette, on connaît l'affiche, c'est vrai, il portait cette casquette-là. Et puis tant d'autres, et Gustav Mahler, évidemment, qu'on célèbre à double titre l'année dernière, c'était sa naissance, cette année, c'est la date de sa mort qu'on commémore. Bref, musique avant tout, Claire Désert, Allegro en si mineur.